Test 4. Épreuve orale collective.
Quand j'avais 6 ans et demi, j'ai vu Le Roi Lion au cinéma et je ne suis pas sûre de l'avoir très bien vécu. J'ai crié devant cette scène
« Longue vie au roi !»
Et j'ai tellement pleuré quand Mufasa est mort qu'on m'a sorti du cinéma pour que je me calme. Certes, j'étais peut-être un peu sensible, mais on vous a demandé à vous aussi si une histoire vous avait terrorisé enfant.
Barbe bleue, sans hésiter.
C'est Pierre et Loulou.
Coraline.
Patatouille.
Alors si on est si nombreux à avoir été traumatisés plus jeunes, pourquoi raconte-t-on des histoires qui font peur aux enfants ?
Le conte, il est aussi vieux, j'allais dire, que la parole chez l'homme.
Pourtant, il y a une grosse différence avec les histoires d'aujourd'hui. C'est que les histoires, les mythes, les contes n'étaient pas vraiment destinés aux enfants.
Le conte, il est d'ailleurs l'expression d'une communauté. La communauté, elle se réunit dans des cérémonies relativement ritualisées. Toute la communauté est réunie, vieux, adultes, enfants. Donc il n'y a pas à l'origine de différence entre des contes pour enfants et des contes pour adultes.
On pourrait croire que c'est pour ça qu'on raconte des histoires qui font peur aux enfants. Parce qu'on a pris l'habitude, depuis des temps immémoriaux, de ne pas filtrer les histoires quand elles sont destinées au jeune public.
La scène qui m'a le plus marquée, c'est la scène où la femme ouvre la chambre, la pièce qui était interdite, et où elle découvre les cadavres, le sang. Et ce que je ressentais dans à l'écoute de cette histoire, c'était vraiment de la terreur.
Mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a eu une période où on a créé volontairement des histoires pour terrifier les plus jeunes.
Au 19e siècle, on commençait à être privilégié ce qu'on appelle les contes d'avertissement, c'est-à-dire des contes très simples qui sont faits pour faire peur aux enfants. C'est à ce moment-là qu'on crée le Croque-Mitaine, le Père Fouettard et même Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est des personnages et bienveillants et malveillants. Si on est bien sage, ils apportent des friandises et des cadeaux, mais si on n'est pas sage, ils apportent des verges.
C'est à cette époque qu'Andersen et les frères Grimm adaptent et mettent par écrit d'anciens contes et légendes dans des livres. Ces livres sont diffusés par la société bourgeoise qui tente alors de tutoriser l'enfant. L'idée, c'est de corriger les mauvais penchants des petits garçons et des petites filles en leur faisant peur. Cette approche éducative, par la peur, semble assez désuète aujourd'hui, à l'heure où on parle plus d'éducation bienveillante ou positive. Dans Le Roi Lion, Scar et les hyènes me faisaient peur, mais on ne nous apprend pas à être des enfants sages. Et d'ailleurs, les bêtises de Simba ont bien sûr contribué au succès du dessin animé. Mais une histoire a bien d'autres fonctions que de rendre un enfant sage.
Au fond, le conte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre à l'enfant d'identifier son angoisse, de lui donner un nom. Ça sera la peur d'être dévoré, hein, c'est la peur du petit pousset, la peur de la fille de susciter le désir de son père ou de son frère, hein, c'est le conte de Podane. En fait, cette peur qui est mise en scène dans le conte, hein, mise en scène dans des situations terribles, par des personnages totalement effrayants, permet à l'enfant de nommer son angoisse. Et son angoisse devient une peur qu'il peut assumer.
Raconter des histoires effrayantes peut donc avoir de bons côtés. Pour autant, il n'y a pas d'accord unanime des professionnels de la petite enfance. Bien au contraire. Parce que ça soulève d'autres questions. Comme par exemple, à quel moment un enfant comprend que les histoires, c'est pour de faux.
Évidemment, les enfants doivent apprendre qu'est-ce que la réalité ? On leur raconte beaucoup d'histoires, hein. On va leur raconter le Père Noël et en même temps, on va leur raconter comment les lapins grandissent et se développent dans un esprit très scientifique. Donc, c'est difficile pour l'enfant de savoir à quel moment on lui parle de choses totalement imaginaires et à quel moment ce sont des choses vraiment réelles dont il doit se souvenir.
Pour s'y retrouver, l'enfant a des indices, car en général, on n'emploie pas le même ton quand on explique à un enfant que la Terre tourne autour du Soleil ou qu'Astérix boit de la potion magique. Il va y avoir des clins d'œil, des sourires, une intonation, des gestes. Mais ça, l'enfant met du temps à le décoder. Éviter de stresser un enfant en lui faisant peur, c'est une question de dosage. Et pour ça, il faut prendre en compte plusieurs facteurs, comme évidemment son âge. Chaque enfant est différent, bien sûr. Mais je crois que ça aurait été pire pour moi de voir Le Roi Lion plus jeune, vers 4 ans par exemple. D'ailleurs, c'est un âge un peu particulier dans la construction de la pensée de l'enfant.
Donc ils ont une espèce de pensée magique où ils pensent que s'ils le pensent suffisamment fort, ça peut se réaliser. Donc il y a des études assez marrantes où on a mis deux boîtes, qui savent que la boîte est vide. Bon, on leur a montré d'abord. Ils imaginaient le lapin. Un deuxième groupe, on dit « imagine un monstre ». Et un troisième groupe, on dit « rien ». Et on regarde à quelle vitesse ils s'approchent de la boîte. Et ceux qui pensent, enfin, qui ont imaginé, ils savent qu'elle est vide, ils ont imaginé qu'il y avait un monstre, ils sont un petit peu lents à s'approcher de la boîte et à l'ouvrir. Même s'ils disent en même temps, je sais qu'il n'y a pas un monstre. Mais il y a cette ambiguïté chez des enfants de 4-5 ans, entre « je l'ai imaginé, donc c'est là, puisque je viens de lui penser, donc c'est peut-être vrai ». Donc c'est tous ces problèmes qu'il faut avoir en tête, que les enfants ne réagissent pas comme nous à un certain nombre d'informations, et donc il faut essayer un peu de les ménager.
Un autre facteur à prendre en compte pour éviter de générer du stress est l'importance de l'accompagnement. Parce que si les professionnels de l'enfance ne sont pas d'accord sur l'impact et l'utilité des histoires qui font peur, sur ce point, ils sont unanimes.
L'enfant sait très bien qu'il est dans un univers de sécurité par l'environnement humain. Le contenu du livre peut proposer tout ce qu'il veut. À partir du moment où l'enfant sait qu'il peut compter sur l'humain qui est là présent auprès de lui, il ne craint rien. C'est ça qui est fondamental. C'est ça ce qui permet de développer la confiance en soi ou l'estime de soi des enfants.
Pour que ça fonctionne, il faut quand même que ce soit l'enfant qui ait la maîtrise du moment de lecture.
Cette maîtrise de l'enfant sur l'histoire, ce cadre rassurant, ça demande à l'adulte écoute et observation.
En fait, les enfants ne vont pas toujours être capables de verbaliser ce dont ils ont besoin, mais leur posture corporelle est assez parlante. Ça peut être l'enfant qui s'éloigne, ça peut être l'enfant qui se met à jouer, qui se met à faire un jeu qui fait du bruit, notamment quand ils sont captifs et qu'ils ne doivent pas bouger. On voit que voilà, il joue avec sa chaussure, avec ses cheveux, n'importe quoi. Il cherche des échappatoires. Ça peut être aussi attraper son doudou, mettre la tétine ou le pouce dans la bouche. Ça peut être une position de repli sur soi. Et quand on est dans une lecture plus individualisée, ça peut être une proximité physique avec l'adulte qui lit. Mais des fois, grâce à cette proximité, grâce au doudou et tout ça, l'enfant peut surmonter sa peur. Mais quand on a un doute, on lui demande. On lui dit « Tu veux que je continue ? Est-ce que ça te fait peur ? Tu préfères qu'on arrête ?»
Je comprends un peu mieux ma réaction devant Le Roi Lion. Voir un film, sans pouvoir faire de pause, sans pouvoir parler, sur un grand écran, entouré d'inconnus, dans le noir. Bon, ce n'est pas très rassurant comme cadre.
Il y a les rats qui envahissent la maison, et il y a une grand-mère avec un fusil, et qui chasse les rats à coups de fusil, et je crois que cette scène, ça m'avait traumatisé. Les coups de fusil au cinéma, en plein dans les oreilles, waouh. J'avais pas supporté.
Mais que ce soit à travers des livres, des dessins animés ou des contes, il y a un autre élément à prendre en considération.
Pour les très jeunes enfants, il faut que ça se termine bien quand même. On ne peut pas laisser les enfants sur une note de désespoir. Il faut les laisser sur quelque chose de joyeux et d'heureux en fin d'album.
Et ça, Disney l'a bien compris. La fin du Roi Lion, c'est vraiment le traditionnel et un peu daté. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. N'empêche, cette musique et ces images m'ont marqué. Et presque 30 ans plus tard, j'ai toujours autant de plaisir à regarder cette dernière scène.